Bonjour, nous allons vous proposer notre premier podcast dans le cadre de la DEBD et de l'activité parcours professionnel. Ce premier podcast vous permettra d'entendre Mélanie Palot, qui a un parcours qui nous a semblé original et intéressant. Mélanie, on va commencer par les informations de base te concernant. Quel âge as-tu? Quelle est ta promotion? L'origine géographique, parcours scolaire avant de rentrer à l'EBD et le poste que tu occupes actuellement. J'ajouterai aussi le lieu où tu travailles, c'est ça qui est aussi un peu original dans ton parcours.
Je suis originaire donc de la Lozère. Comme beaucoup de monde, j'ai fait des études bien classiques de collège, lycée. J'ai par la suite enchaîné sur une licence médiation culturelle et communication à Montpellier, donc à l'université Paul Valéry. Ensuite de ça, j'ai atterri à l'EBD, donc dans la promotion 2009-2011. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que l'EBD est terminé. J'ai pu profiter de la première année en apprentissage à l'EBD, donc en deuxième année. C'était vraiment fort intéressant, fort pertinent aussi de pouvoir atterrir direct dans le milieu du travail après tout le côté théorique de l'université. J'ai fait en fait une année à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, où j'y suis restée ensuite un bon 2-3 ans même, au service veille et communication. Donc je faisais les revues de presse de la Caisse des dépôts et tout ce qui était synthèse d'actualité pour la Caisse. Puis un petit peu fatiguée de la vie parisienne, je dirais, j'ai décidé il y a maintenant 8 ans de quitter Paris pour m'installer à Montréal, où je suis encore, donc Montréal au Canada et pas au fin fond de l'Ardèche, parce qu'il y a un Montréal au fin fond de l'Ardèche, mais c'est donc le Montréal québécois où je vis depuis maintenant 8 ans. J'ai 33 ans, je suis installée là depuis donc un petit bout, je me plais beaucoup à Montréal, et actuellement je suis en transition parce que je commence un nouvel emploi lundi. J'ai enchaîné sur 6 ans pour la compagnie Cédrom SNI, Cision. Vous connaissez certainement les logiciels Europress, Eureka. Donc j'ai pu vraiment évoluer avec eux pendant 6 ans. J'ai pris la décision en fait de quitter mon emploi en janvier 2020. Et demain, je commence un nouvel emploi comme conseillère implantation pour le logiciel des commissions scolaires du Québec. Donc c'est peut-être un petit peu loin de l'EBD.
Tout à l'heure, tu nous as un peu parlé de ton stage au sein de l'EBD. Du coup, me vient cette question, pourquoi l'EBD? Est-ce que ce sont les stages qui t'ont apporté le plus professionnellement, les cours? Qu'est-ce que t'a apporté l'EBD?
Alors, à la base, le pourquoi l'EBD, ma réponse va peut-être paraître un peu bizarre, mais j'ai déjà fait une licence médiation culturelle communication avec un parcours documentation. Donc, j'étais à la base attirée par tout ce qui était documentation. J'avais vraiment une envie de vie parisienne. Donc, je regardais un petit peu ce qui se faisait dans le milieu de la doc à Paris, puis j'ai trouvé l'EBD. Je me suis dit, ah, ça a l'air d'être vraiment un bon choix pour le côté parisien, pour le côté stage, professionnalisation, réseau. Vraiment pour développer son réseau. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis avec l'ouverture là de l'apprentissage, j'ai vraiment su que j'avais fait le bon choix. Pouvoir travailler en même temps qu'étudier, avoir un salaire et avoir aussi une entreprise qui nous paye finalement une partie de notre scolarité, ça a été vraiment très apprécié.
Est-ce que le parcours s'est construit sur des opportunités du moment ou sur des tâches bien particulières que tu souhaitais effectuer?
Mon tout premier stage en première année avec l'EBD, ça avait été chez Direct8, au centre de doc de Direct8, côté donc vidéothèque, photothèque. Donc j'avais vraiment un intérêt pour l'image. Puis le stage que me proposait la Caisse des dépôts, c'était un apprentissage à la photothèque de la Caisse des dépôts. Donc pendant un an, l'apprentissage était en lien avec la photothèque. Ça a été un apprentissage enrichissant d'une part, mais assez difficile d'autre part, avec notre même maître d'apprentissage. Je faisais face à une personnalité très difficile dans le milieu du travail. J'avais l'impression d'avoir appris beaucoup, en fait, sur moi et sur le travail en même temps, parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais 21 ans. Puis ensuite, il n'y avait pas de poste à la photothèque de disponible. Ça reste un organisme public / privé, mais quand même public à la base. Il n'y avait pas de poste. Ils ne pouvaient pas ouvrir de poste à la photothèque. Mais ils m'ont proposé un poste au service de veille. Donc un poste, à l'époque, on appelait ça, je pense, un CDP, contrat privé. Donc c'était des postes de 10 mois qui étaient finalement renouvelables ad vitam aeternam. Puis j'ai enchaîné sur 3 CDP, si je ne me trompe pas, avec eux donc, par la suite. Donc finalement, à la base, c'était l'intérêt pour l'image, pour la photothèque, puis le service de veille, ça a été l'opportunité. Et c'est sûr que mon expérience, je l'ai développée plus finalement en travaillant à la veille, qui m'a permis d'enchaîner vraiment avec Eureka, puis Europress, Cédrom, Cision, ainsi de suite.
Et ta plus longue expérience, c'était donc à Cision, directement au Canada. C'est pas Europress en France.
Exactement. J'ai vraiment travaillé pendant 6 ans et demi pour Cision, Cédrom. Au départ, un poste de responsable de production de revues de presse. Donc, ils avaient vraiment un client important qui était situé en France. Moi, je travaillais depuis le Canada pour un client en France. Mon origine finalement française m'a permis, je pense, en particulier de décrocher ce premier poste. Ils m'ont très rapidement proposé un poste de conseillère pour la plateforme Eureka, que j'ai mis un peu de temps à accepter, je ne vous le cacherai pas, parce que ça signifiait vraiment rester au Québec. Mon gestionnaire a été très patient, j'ai mis 3 mois et demi pour lui donner une réponse positive pour le poste. Puis par la suite, j'ai pu également évoluer avec le rachat de Cision, ils m'ont proposé un poste de gestionnaire de l'équipe, de conseiller. Et il y a eu une fusion même d'équipes, donc j'ai pris toute la gestion finalement des équipes de toutes les plateformes Cision il y a 3 ans. J'ai gardé ce poste-là 1 an et demi, puis j'ai démissionné par la suite. Sur la fin, il y avait 8 personnes.
Et le départ au Canada s'est fait en sachant que tu allais être embauché par Europress, Eureka, ou tu es parti là-bas sans savoir exactement ce que tu allais faire comme travail?
Je suis partie vraiment sans savoir ce que j'allais faire comme travail. Je savais que le siège de Europress était à Montréal, puis j'avais vraiment préparé une lettre d'avance pour eux. J'avais vraiment comme objectif d'être embauchée par Europress, mais j'ai postulé que quand j'ai eu l'opportunité, quand j'ai vu un poste qui me semblait intéressant et sur lequel j'avais mes chances. J'ai commencé par faire des bagels pendant 15 jours, ça ne m'a pas plu. J'ai ensuite fait de la saisie de données pour un organisme communautaire et j'ai enfin trouvé le poste là pour Eureka. J'ai mis un bon 3 mois finalement à postuler chez Europress, puis j'ai été prise 3 mois après mon arrivée au Québec.
Et pourquoi avoir quitté la France pour travailler au Canada?
À la base, juste pour voir autre chose. Hein. Vraiment, j'étais un peu fatiguée de la vie parisienne. J'avais des horaires aussi à la Caisse des dépôts qui étaient fatigants. Et commencer tous les matins à 5h30, 6h, c'était tout un rythme. J'étais aussi jeune et puis j'avais vraiment envie de voir autre chose. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais.
Tu as vu la différence entre la vie professionnelle en France et la vie professionnelle au Canada?
En vrai, c'est vraiment deux mondes. C'est une mentalité qui est totalement différente. Il faut aussi accepter, par contre, de repartir de zéro. Je suis arrivée à Montréal, dans ma tête, je n'avais ni diplôme de l'EBD, je n'avais ni licence en France. J'avais une expérience professionnelle quelconque en France, mais il faut aussi accepter de repartir de zéro et de se dire qu'on est dans un nouveau pays où les gens ne connaissent pas finalement ce qu'on a fait avant et faire ses preuves définitivement. Après, en tant que Français, je pense que c'est quelque chose qui est facile parce qu'on a une mentalité au travail qui est très différente. Au Québec, c'est 4 heures, t'as fini ta journée, tu t'en vas. Quand tu arrives d'une vie un peu parisienne où tu veux tout donner, on a une conscience professionnelle qui plaît beaucoup aux Québécois.
Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais conseiller à des étudiants de l'EBD? Est-ce que l'EBD d'abord est un peu connu là-bas? Et si tu avais sur ce plan-là à donner des informations à futurs étudiants de l'EBD, que partir serait une partir à l'étranger et au Canada, on va parler de ce que tu connais, est-ce que ce serait une chose que tu pourrais conseiller à un moment?
Je recommande à tout le monde de voyager et de découvrir le monde. Ça, de base, je le souhaite à tout le monde et puis je le recommande fortement. Le BD connu à Montréal, je ne pense pas. Ce n'était pas une école qui était reconnue en tant que telle, mais il y a un équivalent à Montréal qui est l'EPSI, donc via l'Université de Montréal, qui est l'école de bibliothéconomie et de sciences de l'information. Et je n'ai jamais trop creusé finalement parce que j'ai assez vite bifurqué du côté technologie de l'information, mais j'ai aucun doute qu'à l'EPSI, ils connaissent le BD et ils ont aussi des connaissances par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Tu viens de changer d'entreprise. Est-ce que tu as une vision du marché du travail là-bas? Est-ce que c'est facile pour nos métiers de trouver du travail dans notre domaine?
Actuellement, il y a une très grosse pénurie de main-d'œuvre au Québec, puis au Canada là, en général. Sur le nouveau poste que j'ai pas vraiment postulé, on est venu me chercher, on m'a fait une offre. Dans mon entreprise que je quitte, ils sont en train de recruter en ce moment 5 ou 6 personnes et ils ne trouvent pas de monde. Il y a trop de postes disponibles pour le peu de monde qu'il y a. Il y a beaucoup d'immigrés au Canada, en règle générale, de personnes qui viennent vivre au Canada. Puis la COVID a fermé complètement les frontières, donc il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement qui est certaine. Pour les métiers de la doc et bibliothéconomie classique, je pense que oui, il y a définitivement une bonne ouverture. C'est sûr que par contre, il faut se dire qu'on va repartir de zéro. Il faut prévoir tout ce qui est équivalence de diplôme, il faut prévoir toute une liste de paperasses pour finaliser le processus d'immigration. Il faut aussi justifier des expériences qui sont différentes et se dire que ce que l'on va faire, ça va être un peu différent. Un poste de bibliothécaire, par exemple, ici, faut une maîtrise. Il faut une maîtrise avec l'EPSI. Puis un poste de documentaliste, on ne va pas appeler ça un documentaliste, on va appeler ça un technicien en documentation. Donc c'est tout plein de petites choses, par exemple, qu'il faut arriver à cerner et à comprendre dans le milieu du travail.
Et le nouveau poste que tu vas donc occuper à partir de lundi, c'est quoi exactement? On sort de la documentation classique?
Pour moi, on sort de la documentation classique. Après, c'est un lien très étroit avec ce que j'ai pu faire avec Eureka. Avec Eureka, j'étais vraiment conseillère de la plateforme. Je conseillais les clients, former les clients sur la plateforme, créer leur requête pour leur veille. Tout ce qui était vraiment veille classique sur une plateforme. Suite à mon expérience avec Eureka, j'ai fait un an avec une compagnie qui faisait du développement d'employés, donc des parcours de développement pour employés, pour se former essentiellement. C'était très un petit peu plus technique. Et puis là, en fait, finalement, je reste dans le technique. Ce que m'a permis de me former avec Eureka, tout ce côté technique, ce côté geek que j'avais un petit peu, mais que je n'ai pas vraiment étudié pour ça. Ça m'a permis vraiment de le développer avec Eureka. Ça m'a permis de le consolider avec mon autre expérience là que je viens de quitter. Puis là, je pars 100% là-dedans avec un poste de conseillère implantation pour un logiciel de commission scolaire. Donc, je pense qu'on est assez loin de la doc, même si, en tout cas dans mon entrevue, je le dis, la doc, ça apporte une certaine rigueur. Puis c'est une rigueur qui est nécessaire dans beaucoup de postes de ce style-là. Donc, même si on est loin de la documentation, les valeurs, finalement, et ce que m'a appris la documentation restent.
On est un peu curieux, donc on aimerait savoir aussi, c'est la vie au Québec en dehors du travail. Est-ce que tu as des hobbies nouveaux, des engagements? Visiblement, comme on fait peut-être de moins longues journées de travail au Canada, on a plus de temps, mais on sait que là-bas, les hivers sont longs et rigoureux. Parle-nous un peu de la vie au Canada.
Il y a deux Canada, il y a le Québec et il y a le Canada. Puis ils le disent eux-mêmes, il y a le Québec et le reste du Canada. C'est vraiment comme ça. Il y a deux parties du Canada, il y a deux langues aussi. Au Québec, en tout cas, c'est francophone à, 99%. Dans le reste du Canada, c'est anglophone à 99%. Donc, il y a ces deux dualités linguistiques déjà qui existent. Il faut savoir qu'à Montréal, moi, je suis arrivée, je n'étais pas du tout bilingue. Je ne le suis toujours pas, mais je me suis beaucoup améliorée. Puis, il faut avoir à Montréal un minimum de connaissance de l'anglais, je pense, pour pouvoir évoluer et travailler dans de bonnes conditions. Dans le reste du Québec, ce n'est vraiment pas le cas. Vous allez en région, vous allez même à Québec, c'est du presque 100% francophone, et les gens ne parlent pas anglais, mais à Montréal, l'anglais est quand même très présent. Si vous avez des notions d'anglais, ça sera beaucoup plus facile de travailler à Montréal que si vous n'en avez pas. Mais dans le reste du Québec, ce n'est pas nécessaire. Après, d'un point de vue hiver, c'est sûr qu'ils sont très longs. Il faut être prêt à les vivre. C'est presque 6 mois de l'année, finalement. C'est 6 mois d'hiver, 6 mois d'été. Il n'y a pas vraiment d'entre-saison. C'est un petit peu ce que disent les gens ici. Puis même, il y a deux saisons à Montréal. Il y a l'hiver et la saison des travaux. Donc, il y a des travaux partout. Et l'hiver. Donc, c'est vraiment ces deux saisons qu'il faut vivre. C'est très agréable. Moi, personnellement, j'aime autant l'un que l'autre pour tout ce que l'on peut faire à l'extérieur. Ça peut être un peu épeurant de se dire qu'on va aller jouer dehors, comme ils disent ici, par -30, mais faire de la raquette, faire Du ski, j'en fais un peu, mais pas beaucoup, mais tout ce qui est randonnée d'hiver, marcher dans des centimètres et des centimètres de neige et sous la neige, c'est féerique, c'est super agréable, faut juste aimer ça. Puis l'été, c'est de profiter aussi d'être à l'extérieur. Les Québécois adorent le plein air. Ça, j'aimais beaucoup ça avant. Là, je peux dire que c'est rendu ma principale occupation en week-end. Je suis tout le temps dehors, je fais du vélo, je marche en montagne. Même si ce n'est pas des grosses montagnes comme on a en France avec les Alpes ou les Pyrénées, c'est hyper agréable. Et ma saison préférée, définitivement l'automne. Pour toutes les couleurs, c'est magique. Si jamais vous avez une saison là où venir, c'est définitivement un automne pour voir les arbres et rouges, oranges, jaunes à perte de vue dans tout le Québec. Puis vous en profiterez pour manger un petit peu de sirop d'érable, ça fera très cliché, et boire du gin et de la bière parce qu'ils ont de très très bonnes bières et de très bons gins au Québec.
Oui, on aurait effectivement envie d'aller là-bas, d'aller vivre et travailler au Québec. Est-ce que, justement, pour peut-être conclure cette interview, est-ce que tu es prête, est-ce que c'est possible pour les gens qui seraient intéressés pour en savoir un peu plus, notamment sur les formalités, les conditions d'embauche, parce qu'on comprend bien que, oui, il y a une grosse demande, et pour l'instant, c'est très difficile à cause de la crise du Covid de venir travailler. Si on veut avoir plus d'informations, est-ce que tu es à disposition? Est-ce que tu es prête à répondre à des mails qui te seraient envoyés? Voilà, on ne communiquera pas en public ton mail, mais pour les gens qui passeront par notre intermédiaire, on pourrait donner ton mail.
Oui, 100% possible. C'est sûr que pour les personnes qui ont moins de 35 ans, c'est vraiment facile de venir au Canada. Il faut le savoir, il y a des permis. Je suis arrivée comme ça avec des permis vacances-travail. C'est facile pour venir. Vous avez un visa ouvert qui vous permet de travailler pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, en fait, vous aurez vraiment la possibilité après de vous établir et de pouvoir rester un peu plus sur le long terme. Pour les personnes de plus de 35 ans, c'est un petit peu plus difficile. Puis dans ces cas-là, ben, on peut toujours m'écrire, je suis 100% d'accord. Le processus, je pense, est beaucoup plus long parce qu'il faut déjà trouver un emploi sur place peut-être avant de venir ou faire des demandes de résidence permanente depuis la France. Les délais sont de 2 ou 3 ans pour l'obtenir et ce n'est pas sûr même de l'obtenir. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais oui, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, j'y répondrai du mieux que je peux, mais je ne suis pas une spécialiste en immigration.
Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt sur les réseaux sociaux de la DEBD. En tout cas, c'était une interview très intéressante et avec un parcours original.